Chapitre 38. Saga Bauer. Saga Bauer pense à Karl Palmkrona. Elle a juste le temps de détourner le visage avant de recevoir un coup. C'est un crochet latéral du gauche qui passe par-dessus son épaule et percute son oreille et sa joue. Elle vacille. Son protège-tête s'est décalé. Elle ne voit quasiment rien, mais elle sait qu'un autre coup va suivre. Elle rentre le menton et protège son visage de ses deux mains. On lui assène un nouveau coup violent, immédiatement suivi d'un autre dans les côtes. Elle trébuche en arrière et se trouve projetée contre la corde. L'arbitre se précipite vers les combattantes, mais Saga a déjà pu se dégager. Elle se déplace latéralement pour se rapprocher du centre du ring. Elle profite de cet instant de répit pour évaluer la force de son adversaire. Âgée d'environ 40 ans, Svetlana Kranz de Falköping est une femme à la stature imposante. Elle a des épaules tombantes, dont l'une porte un tatouage des Guns N' Roses. Svetlana s'approche de Saga d'un pas lourd, la bouche ouverte. Elle pense pouvoir gagner le match sur un KO. Saga recule, elle tourbillonne comme une feuille d'automne dans le vent. Boxer est un jeu d'enfant, et elle sent une vague de bonheur l'envahir. Soudain, Saga Bauer s'immobilise. Elle sourit tellement qu'elle manque d'en perdre son protège-dents. Elle sait qu'elle est meilleure, et elle avait prévu de gagner au point. Elle n'avait pas l'intention de mettre KO son adversaire, mais lorsqu'elle a entendu le mec de Svetlana crier qu'il fallait lui éclater sa gueule de blondasse, elle a changé d'avis. Svetlana se déplace trop vite. Sa main droite est agitée de mouvements saccadés, un peu trop fougueux. Elle est si impatiente de battre Saga qu'elle n'est plus concentrée sur l'évolution du match. Elle a déjà décidé de l'achever avec un ou plusieurs directs du droit et pense que Saga est suffisamment assommée pour qu'elle puisse aisément enchaîner les coups à travers sa garde. Elle ignore que, loin d'être affaiblie, Saga Bauer est au contraire très concentrée. Elle sautille un peu sur place, attend que son adversaire se précipite sur elle et maintient ses gants devant son visage comme si elle ne cherchait qu'à se défendre. Le moment venu, elle esquive un coup en faisant un pas vers l'avant et en repoussant son épaule en arrière pour se dégager de la ligne d'attaque. Elle accompagne son mouvement d'un puissant coup dans le plexus solaire de son adversaire. Le corps de Svetlana se courbe de douleur et Saga sent même le bord de son protège-sein à travers son gant. Le coup suivant est un peu moins bon et n'atteint que le haut de sa tête. En revanche, le troisième est d'une rare pureté. Un puissant uppercut qui s'abat droit sur sa bouche. La tête de Svetlana est projetée en arrière sous une giclée de sang et de morve. Son protège-dents bleu foncé est éjecté de sa bouche. Ses genoux s'affaissent et elle tombe la tête la première. Une fois au sol, son corps s'enroule sur lui-même et reste immobile un long moment. Après le match, une fois rentrée au vestiaire, Saga Bauer sent son corps se détendre peu à peu. Elle a dû ôter le bout de scotch qui entourait les lacets de ses gants avec les dents, et un goût particulier, mélange de sang et de colle, persiste dans sa bouche. La porte du casier où sont rangés ses vêtements est ouverte. Elle a posé le cadenas sur le banc derrière elle. Elle se regarde un instant dans un petit miroir et essuie rapidement quelques larmes. Les violents coups que son adversaire a réussi à lui porter au nez la font encore souffrir. Au début du match, elle avait l'esprit ailleurs et ne pouvait cesser de penser à la conversation qu'elle avait eue avec son supérieur et le chef de la Rikskrim qui lui imposait de collaborer avec Yona. Saga retire d'une main tremblante son short, ses bandages de protection, sa culotte, son maillot noir et le soutien-gorge qui maintient son protège-sein en place. Elle se dirige vers les douches en grelottant, se glisse dans une des cabines et laisse l'eau s'écouler sur sa nuque et le long de son dos. Elle tente de chasser Yona de ses pensées et crache quelques filets de salive et de sang mêlés. Quand elle sort de la douche, une vingtaine de femmes se changent dans les vestiaires après leur séance de body combat. Saga ne se rend pas compte qu'elle est l'objet de tous les regards lorsqu'elle traverse la salle pour rejoindre son casier. La beauté de Saga Bauer semble attendrir tous ceux qui l'observent. Peut-être est-ce son lien de parenté avec le célèbre illustrateur de contes John Bauer qui fait qu'on la compare souvent à un elfe ou à une fée. Elle ne porte pas de maquillage et ses grands yeux bleus comme un ciel d'été illuminent son visage gracieux. Saga Bauer mesure 1,70 m et reste fine, malgré ses muscles bombés et les hématomes qui parsèment son corps. On la croirait plus volontiers danseuse de ballet que boxeuse de haut niveau et inspectrice à la CEPO. Le célèbre illustrateur et artiste John Bauer avait deux frères, Hjalmar et Ernst. C'est Ernst, son frère cadet, qui était l'arrière-grand-père de Saga. Elle se souvient encore des histoires de son grand-père, de l'immense tristesse qu'ils avaient éprouvée lorsque John, sa femme Esther et son petit garçon s'étaient noyés une nuit de novembre dans le lac Vättern, à seulement quelques centaines de mètres du port de Estolmen. Trois générations plus tard, les illustrations de John Bauer semblaient avoir trouvé un écho dans la réalité. Saga évoque à ceux qui la connaissent la princesse scintillante Tufstar, se tenant devant les trolls géants sans manifester la moindre peur. Bien qu'elle n'ait jamais pu mener une enquête à terme par ses propres moyens, Saga ne doute pas de ses qualités d'inspectrice. Pourtant, elle a été dessaisie d'enquêtes parfois après des semaines de travail. Souvent surprotégée contre sa volonté, elle a même déjà été exclue d'intervention sur le terrain. Si elle a fini par s'habituer à ce traitement, elle est loin de l'approuver. Saga Bauer a d'abord étudié à l'École nationale supérieure de police, et comme elle y a obtenu de très bons résultats, elle a pu intégrer une formation spécialisée dans l'antiterrorisme à la CEPO. Promue inspectrice, elle peut participer à des enquêtes ou à des interventions de terrain. Depuis le début de son parcours, elle a veillé à se requalifier et à s'imposer un entraînement physique soutenu. Elle court tous les jours, et au moins deux fois par semaine, elle fait office de sparring partner ou participe à des combats. Elle s'entraîne également toutes les semaines au maniement de son Glock 21 et de son fusil de précision 90. Saga vit avec le pianiste du groupe de jazz Red Bop Label, Stefan Johansson. Ils ont 7 albums à leur actif chez ACT Music. Le groupe a même reçu un Grammy pour son disque d'improvisation mélancolique, A Year Without Asjörn. En général, lorsque Saga rentre du travail ou de l'entraînement, elle s'avachit dans son canapé, mange des bonbons et regarde un film en coupant le son tandis que Stefan joue du piano pendant des heures. En quittant la salle de sport, Saga s'aperçoit que Svetlana patiente près d'une plinthe en béton. « Je voulais juste te remercier et te féliciter pour le match », dit-elle. Saga s'arrête. « Merci à toi ». Svetlana rougit légèrement. « Tu es forte, vraiment. Toi aussi ?» Svetlana baisse les yeux et sourit. Devant l'entrée, les buissons qui délimitent le parking sont jonchés d'ordures. « Tu prends le train ?» demande Saga. « Oui, d'ailleurs je devrais y aller. » Svetlana saisit son sac mais ne part pas. Elle voudrait dire quelque chose, mais semble hésiter. « Saga, je m'excuse pour mon mec, » dit-elle enfin. « Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'il criait. En tout cas, c'est la dernière fois qu'il vient. » Svetlana se racle doucement la gorge et commence à marcher. « Attends, » dit Saga, « je peux t'amener à la gare si tu veux. »